Bonsoir à vous, chers frères et sœurs malades, et vous qui êtes présents. Les frères Carmes qui animent cette neuvaine ont choisi, vous le savez, de s'appuyer sur les paroles du pape François dans son exhortation apostolique, c'est la confiance. Et hier, nous avons découvert comment le pape commence cette exhortation en citant une phrase de Sainte Thérèse, et en disant à propos de cette phrase qu'elle résume le génie de sa spiritualité et suffirait à justifier qu'on l'ait déclaré docteur de l'Église. Voici cette phrase. C'est la confiance, et rien que la confiance, qui doit nous conduire à l'amour. Cette parole se trouve dans une lettre que Thérèse a écrite un an avant sa mort, et qui est une réponse à une lettre que lui a envoyée sa sœur Marie, qui est aussi sa sœur au Carmel, en réponse à un texte beaucoup plus long qu'une simple lettre, dans lequel Thérèse dit notamment ses grands désirs, et parmi ses grands désirs, ses désirs par amour pour Jésus de mourir martyr, et pas simplement d'une sorte de martyr, mais de tous les martyrs, chose qui rebute extrêmement Marie, sa sœur, et celle-ci finit par lui dire « Vous ne me ferez pas croire que je peux aimer Jésus comme vous l'aimez, parce que je redoute tout ce que vous aimez, j'ai peur du martyr. » Et nous avons vu comment nous-mêmes, peut-être, devant l'exemple des saints, nous nous sentons intimidés ou plus gravement bloqués par le fait qu'ils semblent avoir des désirs, des aspirations ou vivre des choses qui nous paraissent au-dessus de nos forces. Et nous avons vu comment Thérèse débute sa lettre, c'est ici que je reprends, elle débute sa lettre en grondant gentiment sa sœur avec ces paroles. « Ma sœur chérie, je ne suis pas embarrassée pour vous répondre. Comment pouvez-vous me demander s'il vous est possible d'aimer le bon Dieu comme je l'aime ?» Nous pouvons considérer que cette parole du haut du ciel ou dans notre cœur, Thérèse nous l'a dit aussi, à nous qui peut-être pensons que aimer le bon Dieu comme sainte Thérèse de Lisieux, ça n'est pas possible. Alors certes, au moment où Thérèse écrit cela, elle n'est pas encore morte, il lui reste encore un an pour approfondir son amour de Dieu, mais enfin il est déjà bien profond, bien rayonnant. Et peut-être que nous nous disons, eh bien cet amour qui embrase tout l'être, qui le transforme, c'est pour les saints, ce n'est pas pour moi. Alors Thérèse nous dit maintenant, mais comment vous pouvez me demander s'il vous est possible d'aimer le bon Dieu comme je l'aime? Sous-entendu, c'est possible. Et Thérèse répondait à l'objection de sa sœur. Vous, Thérèse, vous avez un désir ardent du martyr, et moi, j'en ai horreur. Elle lui répondait que ses désirs du martyr, écoutons bien, mes désirs du martyr ne sont rien. Ne sont rien. C'est comme s'ils ne comptaient pas. Elle dit même, c'est une consolation que Dieu donne à des âmes faibles comme la mienne. Et elle ajoute, si vous, ma sœur Marie, vous alliez au martyr dans les dispositions où vous êtes, c'est-à-dire sans désir du martyr, vous auriez un grand mérite et moi je n'en aurais aucun. Autrement dit, en faisant un petit peu la leçon à sa sœur, elle nous fait la leçon à nous aussi. Car quand nous nous regardons, nous avons l'impression, en comparaison avec Thérèse, que nous n'avons pas ce qu'il faut pour être saint. Mais justement, ce que Thérèse va nous expliquer, c'est que pour être saint, il ne faut pas chercher à trouver en soi des forces, mais il faut chercher à les trouver en Dieu et en Dieu seulement. Alors voilà ce que dit Thérèse mot à mot. « Je sais bien que ce n'est pas cela du tout qui plaît au bon Dieu dans ma petite âme. Donc cela, ce sont ces grands désirs du martyr. Ce n'est pas du tout ces grands désirs du martyr qui plaisent au bon Dieu dans ma petite âme, ce qui lui plaît. Donc ça, cela plaît dans l'âme de Thérèse, cela plaît à Dieu, mais cela plairait sans doute aussi à Dieu de le voir dans notre âme. Ce qui lui plaît, c'est de me voir aimer ma petitesse et ma pauvreté, c'est l'espérance aveugle que j'ai en sa miséricorde. Et nous avons terminé la fois dernière, hier, en écoutant la parole que Thérèse ajoute immédiatement, « Voilà mon seul trésor. Pourquoi ce trésor ne serait-il pas le vôtre ?» Eh bien, frères et sœurs, ce trésor, nous allons essayer d'en ouvrir la boîte, de le découvrir et de le faire nôtre. Aimer notre petitesse et notre pauvreté, espérer aveuglément en la miséricorde de Dieu. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Eh bien, tout d'abord, considérer, mettre les choses premières en premier, considérer la miséricorde de Dieu. Ce que la Bible nous révèle et ce que Thérèse a découvert particulièrement dans la personne, dans les paroles et dans les actions de Jésus, c'est que Dieu est miséricorde. Elle nous disait hier comment elle contemplait en Jésus les flots de tendresse infinie qui sont enfermés en lui et qu'il désire pouvoir répandre. Simplement, il trouve personne, ou très peu de personnes, qui acceptent son amour, disait-elle, et qui se jettent dans ses bras. Donc, considérer en premier la miséricorde de Dieu et avoir en cette miséricorde, dit Thérèse, une espérance aveugle. Qu'est-ce que ça veut dire, une espérance aveugle ? Ça veut dire une espérance qui ne regarde pas autre chose que la miséricorde. Or, nous, notre problème, c'est que nous regardons autre chose que la miséricorde. Nous regardons soit nos forces, nos vertus supposées, et c'est un problème, comme nous allons le voir, parce que nous risquons de nous appuyer dessus et nous n'irons pas bien loin, ou alors nous regardons nos manques de vertus, nos manques de forces, voire nos impuretés, nos obscurités, nos péchés, et du coup, nous n'espérons plus en la miséricorde de Dieu. Donc oui, nous les voyons, nos fautes, nous les voyons, nos insuffisances, mais il s'agit de ne pas les regarder. Il s'agit de regarder la miséricorde de Dieu, et c'est à cette lumière que nous verrons. Espérer aveuglément en la miséricorde de Dieu. On pourrait dire, même en mettant les choses au pire, même, comme dira Thérèse à la fin de l'histoire d'une âme, même si j'avais commis tous les péchés qui se peuvent commettre, donc nous pouvons transposer pour nous, même si moi j'étais le plus grand des pécheurs, eh bien Thérèse dit, j'irai me jeter le cœur brisé de repentir dans les bras du bon Dieu, car je sais qu'il chérit l'enfant prodigue qui revient à lui. Donc vous voyez, ça vaut pour tout le monde, même dans le pire des cas, cette espérance aveugle est possible et c'est la voie qui conduit à l'amour. Alors je ne vais pas lire toute la lettre, mais je viens à un paragraphe qui est particulièrement important et qui va faire l'objet de notre méditation. Voici ce que Thérèse dit à sa sœur. « Ô ma sœur chérie, je vous en prie, comprenez votre petite fille. » Non, comprenez-moi, Thérèse. Comprenez que pour aimer Jésus, ça veut dire pour atteindre le but ultime de l'existence. C'est cela pour Thérèse, aimer Jésus, pas simplement faire des actions charitables. Aimer Jésus, pour elle, c'est ne faire qu'un avec lui. D'ailleurs, on va voir comment elle parle de cela. Pour aimer Jésus, être sa victime d'amour. Alors voilà une expression qui pourrait nous paraître étrange, voire choquante. Nous pouvons considérer que quand Thérèse dit « victime d'amour », elle pense à ceci. De son temps, il y avait des personnes, j'ai pu le dire hier, qui s'offraient en victime à la justice de Dieu. L'idée était de détourner sur elle-même le châtiment qu'elle pensait que les pécheurs méritaient. Et Thérèse n'entre pas dans cette logique-là. Elle veut s'offrir en victime à l'amour miséricordieux de Dieu, c'est-à-dire, plus précisément, en victime d'holocauste. Or, qu'est-ce qu'un holocauste dans l'Ancien Testament ? C'est un sacrifice dans lequel la victime est entièrement embrasée. Alors, certes, elle était détruite. Thérèse ne veut pas être détruite. Elle veut être entièrement embrasée par l'amour, jusqu'à mourir d'amour. Donc, en ce sens, c'est aussi une destruction, mais cette destruction, nous la connaîtrons tous. Donc, autant la vivre en étant embrasée par l'amour. Donc, voilà le but. Pour aimer Jésus, être sa victime d'amour, alors, qu'est-ce qu'il faut ? Thérèse dit, plus on est faible, sous-entendu, vous allez voir, mieux c'est. Non, plus on est faible, sans désir. Moi, Thérèse, j'ai des grands des désirs du martyr, mais ça ne compte pas. Plus on est faible, sans désir, ni vertu. Plus on est propre aux opérations de cet amour consumant et transformant. Je relis. Pour aimer Jésus, être sa victime d'amour, le but de notre vie. Plus on est faible, sans désir ni vertu, plus on est propre aux opérations de cet amour consumant et transformant. Donc là aussi, il faut regarder non seulement le but, l'amour, mais aussi comment ce but, en quelque sorte, est. C'est un but, je l'ai dit hier, qui n'est pas, comment dirais-je, comme le sommet d'une montagne qui se passe bien de nous. Hein. Ce but nous attire à lui, ce but agit pour nous attirer à lui. Et l'image ici qu'emploie Thérèse, c'est celle du feu qui consume et transforme. Donc le but de notre vie est là, prêt à nous embraser, nous transformer. Et donc il faut être propre aux opérations de cet amour, de ce feu d'amour. Ça veut dire qu'il faut se disposer pour que ce feu d'amour puisse toujours davantage nous transformer. Eh bien, Thérèse nous dit que la meilleure disposition, c'est d'être faible, sans désir, ni vertueux. Faible, je pense qu'il n'y a pas besoin de commenter beaucoup. Sans désir, elle veut dire non pas que ses désirs à elle sont un obstacle à l'amour de Dieu, mais qu'il y aurait un risque à être possesseur de nos désirs. Ah, moi j'ai de bons désirs, ah, moi j'ai de grands désirs. Ben, il se peut très bien qu'on se sente déprimé, fatigué par la vie, et qu'on ressent très peu de désirs en soi. Elle met sans désir au pluriel. Vous voyez, elle parle de ces désirs qui nous tirent à droite, à gauche, éventuellement des bons désirs. Elle ne parle pas ici du grand désir fondamental de la vie, qui est celui d'être heureux et d'être heureux avec Dieu. Plus on est faible, sans désir ni vertu, voilà qui est étonnant. Est-ce qu'il faudrait être rempli de vices pour être propre aux opérations de cet amour ? Alors, je ne sais pas ce que dirait Thérèse, mais elle pense en tout cas que les plus grands pécheurs, s'ils accueillent la miséricorde du Seigneur, seront délivrés de leurs péchés. Mais elle veut dire ici, sans désir ni vertu, elle veut dire que, me semble-t-il, qu'il y aurait un danger à être en quelque sorte propriétaire ou collectionneur de nos vertus, de nous appuyer dessus. Autrement dit, l'impression que je n'ai pas de vertu, l'impression que mon amour est petit, par exemple, que mon espérance est petite, que ma foi est petite, cette impression-là n'est pas un obstacle. Au contraire, par là, je suis propre aux opérations de cet amour consumant et transformant. Et elle ajoute, elle commente, et cela va nous éclairer. Elle va nous parler d'un désir qui, lui, est important. Je vous disais, hein, plus on est faible, sans désir au pluriel, ces multiples désirs que nous pouvons avoir. Et je vous disais qu'il y a un désir qui compte quand même, et le voici. Le seul désir d'être victime suffit. Alors, ne comprenons pas le seul désir qui nous arrive plein de catastrophes dans la vie. Ça n'est pas ça. Le seul désir d'être consumé par l'amour de Dieu. c'est-à-dire le seul désir que Dieu agisse en nous pour nous transformer. Le seul désir d'être victime suffit. Petite pause, vous avez peut-être remarqué la ressemblance avec la phrase qui nous guide depuis le début, vous vous souvenez ? C'est la confiance et rien que la confiance qui doit nous conduire à l'amour. Rien que, une seule chose. Là aussi, il y a une seule chose, le seul désir d'être victime. Vous voyez ? Rien que la confiance, rien que le désir d'être victime. Finalement, c'est un petit peu la même attitude, c'est-à-dire c'est une orientation de notre être vers Dieu qui va agir, qui va nous transformer. Le seul désir d'être victime suffit, mais il faut consentir. Voilà une phrase clé qu'il faut graver dans notre mémoire. Il faut consentir à rester pauvre et sans force, et voilà le difficile. Il faut consentir à rester pauvre et sans force, et voilà le difficile. Donc, d'une certaine manière, tout est facile, puisque c'est Dieu qui va agir. Nous n'avons pas, encore une fois, à nous appuyer sur nos propres désirs, nos propres vertus, notre propre force. C'est Dieu qui va tout faire. Mais il y a quand même quelque chose de difficile, c'est qu'il faut consentir à ce que ça soit lui qui fasse et pas nous. Bien sûr, nous allons agir, nous allons nous efforcer d'aimer, bien sûr. Mais ça sera une conséquence de notre transformation. Nous ne pouvons pas nous embraser nous-mêmes de l'amour de Dieu. Et il faut consentir à rester pauvre et sans force, et voilà le difficile. Et Thérèse parle d'expérience, bien sûr. Et même si elle a fait des progrès très rapides, elle a eu à découvrir progressivement que, par elle-même, elle ne pouvait rien, malgré tous ses efforts. Elle finira par dire, et il faut absolument que je vous le cite avant que nous nous quittions, elle finira par dire, quelques mois après cette lettre, en juin 1897, dans l'histoire d'une âme, je suis trop petite pour tourner de belles phrases afin de vous faire croire que j'ai beaucoup d'humilité. J'aime mieux convenir tout simplement que le Tout-Puissant a fait de grandes choses en l'âme de l'enfant de sa divine mère. Voilà une phrase un petit peu contournée, un peu compliquée. Le Tout-Puissant, donc Dieu, a fait de grandes choses en l'âme de l'enfant de sa divine mère. Ça nous fait penser, bien sûr, au Magnificat. Vous savez, dans le Magnificat, le Tout-Puissant a fait pour moi des merveilles. Voilà. Donc elle s'identifie un petit peu à Marie qui chante les merveilles que le Tout-Puissant a fait pour elle. Et voici ce qu'elle dit. Le Tout-Puissant a fait de grandes choses en l'âme de l'enfant de sa divine mère, c'est-à-dire en moi, Thérèse, et la plus grande. Alors, question, quelle est la plus grande chose que Dieu a fait dans l'âme de Thérèse, selon Thérèse ? Elle écrit ça 4 mois avant de mourir. Quelle est cette plus grande chose ? Alors, on ne va pas faire question-réponse, mais je vous dis, c'est surprenant quand même. Docteur de l'Église, patronne universelle des missions, la plus grande sainte des temps modernes, dira un pape. Le Tout-Puissant a fait de moi de grandes choses, et la plus grande, c'est de lui avoir montré sa petitesse, son impuissance. Donc, si je reviens à la lettre, Thérèse disait, « Pour aimer Jésus, être sa victime d'amour, plus on est faible, sans désir ni vertu, autrement dit, petit, impuissant, plus on est propre aux opérations de cet amour consumant et transformant, le seul désir d'être victime suffit, mais il faut consentir à rester pauvre et sans force, et voilà le difficile. » Mais Thérèse, dans le passage que je viens de citer, nous a expliqué que c'est ce difficile que Dieu a fait pour elle. Il lui a montré sa petitesse, sa pauvreté, et il lui a appris à choisir de rester petite et pauvre devant Dieu. Et elle commente, « Car le véritable pauvre d'esprit, où le trouver ? Il faut le chercher bien loin, lit-on dans un psaume. Ah, restons donc bien loin de tout ce qui brille. Donc tout ce qui brille, ça peut être à mes propres yeux, je suis quelqu'un qui a fait tellement de progrès spirituels, je suis quelqu'un qui sait tenir sa langue, qui est charitable, qui ceci, qui cela. D'ailleurs, les autres me le disent, je vois bien dans leur regard qu'ils m'apprécient. Ou alors, je n'ai rien de tout ça, mais je voudrais bien l'avoir. Je voudrais bien, moi, qu'on me trouve vertueuse, sainte, etc. Vous voyez, ce qui brille, ça nous captive, qu'on l'ait ou qu'on ne l'ait pas. Restons donc bien loin de tout ce qui brille, aimons notre petitesse, aimons à ne rien sentir. Vous voyez, Thérèse va jusque-là, bah, même si dans la prière, pendant la messe, je ne ressens rien du tout, je me sens sec comme un bout de bois, non seulement ce n'est pas un problème, mais je peux aimer cela. Bien sûr, pas en soi-même, mais parce que, c'est la suite qui compte, alors nous serons pauvres d'esprit. Un pauvre d'esprit, c'est pas celui qui n'a rien, c'est celui qui compte pour rien ce qu'il a devant Dieu. Alors nous serons pauvres d'esprit et, voilà la clé, Jésus viendra nous chercher. Si loin que nous soyons, il nous transformera en flamme d'amour. Vous voyez, il s'agit d'aimer notre petitesse, notre pauvreté, non pas en elle-même, pour elle-même, mais parce que si nous les aimons comme étant ce qui attire Jésus à nous et que nous nous tournons avec confiance vers lui, eh bien lui viendra nous chercher, lui nous transformera en flamme d'amour. Et elle ajoute « Oh, que je voudrais pouvoir vous faire comprendre ce que je sens !» Et voici la phrase par laquelle nous avons commencé. « C'est la confiance, et rien que la confiance, qui doit nous conduire à l'amour. » La lettre continue, mais on atteint avec cette phrase une forme de sommet. Je voudrais simplement, pour que nous gardions en mémoire cela, vous relire ce passage clé et ajouter un petit mot quant aux conséquences pratiques de ce que Thérèse dit. Je relis ce passage central. « Ô ma sœur chérie, je vous en prie, comprenez votre petite fille. » Comprenez que pour aimer Jésus, être sa victime d'amour, c'est-à-dire être totalement embrasé de son amour, plus on est faible, sans désir ni vertu, plus on est propre aux opérations de cet amour consumant et transformant. Le seul désir d'être victime suffit. La confiance, rien que la confiance. Mais il faut consentir à rester pauvre et sans force, et voilà le difficile. Un petit peu plus loin, aimons notre petitesse. Aimons à ne rien sentir, alors nous serons pauvres d'esprit et Jésus viendra nous chercher, si loin que nous soyons, il nous transformera en flamme d'amour. C'est la confiance et rien que la confiance qui doit nous conduire à l'amour. Alors nous pourrions nous dire, eh bien, nous avons simplement à être là, à attendre que Jésus, que Dieu fasse tout, et puis nous nous croisons les bras. Là, on n'aurait rien compris, bien sûr, parce que ce dont il s'agit, ce n'est pas simplement que Dieu nous fasse du bien, c'est déjà formidable, mais c'est qu'il nous transforme en flamme d'amour, c'est-à-dire qu'il fasse de nous des êtres, des hommes, des femmes qui, toujours plus profondément, aiment, s'oublient eux-mêmes pour chercher que les autres aussi puissent être transformés en flamme d'amour, puissent connaître l'expérience de la vraie joie, du bonheur. Il y a là quelque chose de très important par lequel je veux terminer, c'est que, bien sûr, ce que Thérèse dit ici, ça n'est pas une théorie personnelle, en quelque sorte. L'Esprit-Saint lui a donné de redécouvrir ce qui était déjà contenu, bien sûr, dans les évangiles, dans les lettres de saint Paul, à savoir... Dieu nous a aimés le premier et il nous donne ainsi, en nous transformant par son amour, d'aimer. Et donc, il faut prendre les choses dans le bon sens. Si j'aime mon prochain, si je cherche à aimer mes ennemis, ce n'est pas pour être aimé de Dieu, mais c'est parce que Dieu est amour et qu'il m'aime et me transforme. Il y a 150 ans, l'année dernière, Thérèse naissait. Eh bien, il y a 25 ans cette année, un document très important a été signé entre l'Église catholique et des églises protestantes. Ce document a été signé ensuite par d'autres églises protestantes. C'est la déclaration commune sur, alors le mot est étrange, la justification, c'est-à-dire ce qui nous libère du péché et nous unit à Dieu. Et il y a un accord profond sur le fait exactement de ce que Thérèse a contribué à faire redécouvrir à l'Église catholique, un accord profond sur ce point avec les protestants, que, je cite ce document, c'est seulement par la grâce, vous voyez, un peu comme Thérèse, il y a un seulement, rien que, c'est seulement par la grâce dans la foi en l'œuvre de salut du Christ, et non en raison d'un quelconque mérite de notre part, que nous sommes acceptés par Dieu et que nous recevons l'Esprit Saint qui renouvelle nos cœurs. On pourrait traduire que nous recevons le feu de l'amour de Dieu qui nous transforme, tandis que l'Esprit Saint nous rend capables d'accomplir les œuvres bonnes et nous appelle à les accomplir. Vous voyez ? Donc ce que Thérèse nous dit, c'est exactement le cœur de notre foi, qui est le résumé de l'Évangile, des lettres de Saint Paul. Il s'agit de reconnaître devant le Seigneur que nous n'avons absolument aucun mérite et que nous n'en aurons jamais qui mérite qu'il nous aime, de nous laisser aimer par lui en lui présentant prioritairement nos impuissances, nos faiblesses, notre pauvreté, même en nous en réjouissant, car nous savons que cela l'attire en nous, et à partir de là, comme des pauvres qui demandent à chaque instant ce dont ils ont besoin, nous pourrons aimer, non pas en nous appuyant sur des réserves d'affection que nous aurions pu emmagasiner, même si nous sommes envahis par des pensées de jalousie, de rejet, de mépris, de haine, tout ce que vous voulez, nous pouvons aimer à condition de ne pas nous appuyer sur nos propres forces, mais de nous dire « pour moi c'est impossible, mais je vais demander au Seigneur » et instant après instant, et il me donnera ce qu'il faut pour aimer. C'est ce que Thérèse a vécu, c'est ce que l'Église, à travers son doctorat, nous donne en exemple, et c'est ce que nous pouvons vivre, et l'Eucharistie que nous allons partager maintenant va nous plonger au cœur de ce mystère.